reconnaît-on quelqu'un de bien? Peut-on même encore poser la question? À l'heure où une nouvelle décennie vient de s'achever et que commence l'année, ces questions ne sont pas anodines, car elles mettent le doigt sur un marqueur important de notre époque. D'abord que la gentillesse et l'esprit de justice ont cédé le pas au cynisme et au scepticisme. Il n'y a qu'à regarder les fictions au cinéma ou en série pour s'en rendre compte. Ensuite, qu'il est devenu extrêmement difficile de se revendiquer d'un comportement moral, tant le terme se voit immédiatement opposé à un relativisme radical. Moral de qui? Au nom de quoi? À quelle époque et en quel lieu? Et tout semble se confondre, morale, éthique, moralisme, puritanisme. La philosophe Laurence de Villers s'est fixé la lourde tâche d'essayer d'y voir plus clair et surtout de nous y faire voir plus clair. Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour.
Et bonne année à vous.
Bonne année à vous aussi.
Alors c'est une question, qu'est-ce qu'une personne de bien? Qu'est-ce que quelqu'un de bien? Qu'est-ce qu'un mec bien? C'est une question qui se pose beaucoup en ce moment. C'était la question au cœur d'un livre sorti en septembre de l'historien Yvon Jablonka. Je vous propose de l'écouter.
Qu'est-ce qu'un mec bien aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un mec bien? Pas simplement après MeToo, mais après d'autres événements. Voilà, qu'est-ce qu'un mec bien? Est-ce que quand on voit une femme se faire emmerder dans le métro, est-ce qu'il faut passer son chemin? Est-ce qu'il faut intervenir? Est-ce que quand un collègue interrompt une femme, comme il est de coutume dans une réunion, faut le rappeler à l'ordre ou faut faire comme si on n'avait pas entendu? Bref, qu'est-ce qu'un bon conjoint? Qu'est-ce qu'un bon père? Qu'est-ce qu'un bon manager? Qu'est-ce qu'un bon urbaniste? Qu'est-ce qu'un bon médecin? Qu'est-ce qu'un bon chercheur? Je le dis pour moi. Et tout ça, c'est des questions qu'il faut poser publiquement, même si elles sont parfois douloureuses, parce que on s'aperçoit rapidement que les privilèges de genre sont endémiques et que, en conséquence, l'injustice est dans nos couples, l'injustice est dans nos familles, l'injustice est dans nos bureaux, dans nos rues, dans notre cité. Et pour toutes ces raisons, c'est parfois un peu douloureux. Cela a été sans doute pour moi en écrivant ce livre. Et en tout cas, je comprends que ça mette mal à l'aise, mais c'est de salubrité publique que de poser la question.
Voilà l'historien Yvon Jablonka, c'était au micro d'Olivia Gesbert en début d'année. Laurence de Villers, vous êtes, je le disais, le doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Vous êtes une ancienne élève de l'école normale supérieure. Vos travaux portent donc sur l'histoire de la philosophie, notamment sur Descartes et Pascal, et sur les questions de métaphysique. Vous êtes enfin conseillère à la rédaction de la revue jésuite Études. Cette question de qu'est-ce que c'est qu'une personne bien, une personne de bien, peut-être qu'il faudra faire la différence. C'est une question d'actualité.
Elle est à la fois...
Qui échappe à l'actualité, justement.
Les deux, c'est ça la difficulté de la morale, en fait. C'est que la morale semble nous mettre aux prises avec ce qu'on appelle des valeurs, donc des choses abstraites qui pour être des valeurs doivent être intemporelles. Ça doit pas valoir uniquement pour vous ou pour moi ou pour notre société ou pour notre époque. Ça doit valoir tout le temps. Et en même temps, la morale est toujours une épreuve ou une preuve. Ça va ensemble. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit se vivre concrètement et qui m'interroge moi concrètement, qui me sollicite moi tel que je suis ici maintenant et pas vous. Vous pourrez pas vous substituer à moi pour accomplir un acte bon. Donc la morale, c'est les deux. C'est à la fois jamais d'actualité. Et c'est ce qui fait sans doute sa difficulté. Et c'est en même temps toujours d'actualité. Parce que je pense que la morale n'est pas une région particulière de nos vies, c'est pas un moment particulier de nos vies, même s'il peut y avoir des grands carrefours de la morale dans nos vies. Mais tout ce qu'on fait, toujours, est un engagement moral. En fait, on ne cesse quotidiennement, et même de façon modeste, de prendre des décisions morales. C'est pourquoi je pense qu'il faut dire que toute conscience est une conscience morale.
Alors on va revenir évidemment sur l'utilisation que vous faites de ce terme de morale qui n'a plus très bonne presse, justement, Laurence de Villers. Mais peut-être un mot de cet ouvrage « Être quelqu'un de bien, philosophie du bien et du mal » donc publié aux presses universitaires de France. Comment le qualifier? Est-ce que c'est un traité de morale, comme il y en a eu beaucoup à travers l'histoire et l'histoire de la philosophie notamment? Ou est-ce que c'est plutôt une volonté de... on peut même plus faire un traité de morale, c'est-à-dire qu'il faut réaffirmer même la possibilité de parler de morale aujourd'hui?
Alors, vous avez raison, parce que maintenant, un livre, c'est jamais neutre. C'est surtout dans nos domaines, dans le domaine des idées. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on écrit un livre en philosophie?
D'où on parle?
Et qui sommes-nous pour pouvoir parler comme ça? Déjà, c'est de la philosophie, et je suis au regret de dire que la philosophie fait pas toujours entendre une voix confortable et facile. En tout cas, les philosophes qui m'ont marqué sont toujours ceux qui ont dérangé ma tranquillité, mes certitudes.
Je le disais, c'est Descartes, c'est Pascal.
Ouais, c'est Nietzsche aussi. Nietzsche et Pascal, et d'ailleurs Nietzsche avait pour maître Pascal, disait-il, hein, ces deux-là en fait nous empêchent d'être tranquilles, en paix avec nos certitudes et nos convictions. Donc je pense que c'est le rôle de la philosophie, donc en cela c'est vraiment un livre de philosophie, de déranger ce qu'on croit avoir compris et réglé pour toujours. Et on croit avoir fait un sort à la morale, ne serait-ce qu'en refusant d'employer le terme. Vous avez remarqué sans doute que, enfin vous le soulignez, qu'on préfère dire éthique au lieu de morale, parce que la morale contient quelque chose de la leçon de morale. Elle a quelque chose du sermon, du prêche, voire de la punition. Dès qu'on parle de morale, on sent qu'on est menacé d'aller au piquet. Donc il y a cette brimade que contient la morale. Je pense qu'il faut pas le nier, mais je pense que ça doit pas être une raison pour lui préférer d'autres termes, notamment celui d'éthique. Pourquoi est-ce qu'on le préférerait? Parce que on a le sentiment qu'avec éthique, ça serait une morale qui viendrait du cœur, que ça serait plus un parcours personnel, que il y aurait plus de sentiments d'une certaine façon. Donc j'ai essayé d'une part de comprendre pourquoi la morale a quelque chose de contraignant. Oui, il y a une dimension contraignante dans la morale. Et pourquoi elle est en même temps une éthique, forcément une éthique.
Oui, mais aussi que c'est l'éthique, c'est de l'ordre des normes et aussi de l'ordre des règles qu'on se donne à soi-même ou qu'on se donne en tant que société, alors que la morale a peut-être cette valeur absolue qui réfère à une forme de transcendance. Et à ce moment-là, si on n'est pas d'accord sur la transcendance à laquelle on se réfère pour la morale, il n'y a pas de morale commune possible, Laurence de Villers.
En fait, vous formulez le problème de la morale qui a été celui auquel j'ai dû m'affronter. C'est que la morale est un absolu. Je crois vraiment qu'il y a le bien et le mal, et mettons-y des capitales. Mettons-le en majuscule, il y a vraiment le bien et le mal, et je ne crois pas à une zone grise où on ne saurait pas quoi faire. Je crois que dans la seconde même, ou deux secondes, trois secondes, on sait ce qu'il faut faire. Vous citiez Yvan Jablanka. Oui, on sait très bien, il donne ces exemples-là, mais je les reprends peut-être encore plus concrets. On sait très bien que là, on devrait parler. Là, on devrait dire que non, c'est pas vrai. Là, on devrait dire que non, ça se fait pas. Là, on devrait soutenir son collègue. Là, on devrait ne serait-ce que lui sourire. Donc je crois que oui, ce sont des absolus qui se donnent en évidence et en majesté, et en même temps, ça me requiert moi en personne. Donc il y a cette conjonction de quelque chose d'absolument intime, concret et personnel. Et, vous l'avez dit, et je le reprends à mon compte, de transcendant et d'absolu. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça la morale. Et en fait, j'ai essayé de voir ce qui se passe quand on est à la rencontre de ces deux dimensions-là, moi et personne d'autre. C'est moi là qui dois dire que c'est pas vrai, on accuse injustement Raphaël, au hasard. Donc ça me requiert en personne, personne ne peut le faire à ma place, et en même temps, j'ai cette vision, ou cette voix, hein, du bien, qui me requiert et qui me demande cet acte de courage.
Oui, mais alors s'il n'y a pas de zone grise, on peut s'interroger si justement ces zones grises, ce ne sont pas les zones de la philosophie. Je pense spontanément aux questions de bioéthique. On parle bien de bioéthique et pas de biomorale. Et en la matière, que ce soit la question de la fin de vie, que ce soit la question de l'avortement par exemple, comment peut-on dire qu'il y aurait un absolu auquel on se référerait immédiatement et vers lequel on saurait tendre spontanément, Laurence de Villers?
Alors, là, on touche à un autre point de difficulté. On aura décidément que des difficultés, je pense, avec la morale. C'est comment on rend concret quelque chose qui est de l'ordre de l'absolu. Alors ça, c'est effectivement un des grands problèmes de la philosophie, hein, qui se débat avec des absolus et qui essaie de montrer comment ces absolus prennent vie ou doivent prendre vie. Donc effectivement, si on souhaite dire que ce problème de concrétisation, enfin de rendre visible, public en réalité, d'inscrire dans le droit même des absolus de morale, alors oui, appelons ça éthique, je veux bien, mais moi je veux pas faire de distinction. Il est toujours question de morale, et vous le voyez bien, en bioéthique, même si on se demande concrètement comment inscrire dans la loi ou le droit ou la sphère publique, des convictions d'hôte morale, on est rattrapé par la morale. Les termes mêmes qu'on utilise, on utilise fin de vie, mais on parle de vie. Alors on rechigne, je pense, à parler de mort, mais on parle de mort. Et quand on parle de ces termes qui sont en fait de la métaphysique, et de la morale aussi, parce que c'est quoi une vie bonne, c'est quoi une vie qui mérite d'être vécue jusqu'à la toute fin, c'est quoi une vie qui est mutilée, c'est quoi une vie qui souffre, toutes ces questions-là renvoient en fait à de la morale, à des absolus.
On va en arriver évidemment à cette question de la vie bonne, telle que le formule le philosophe Theodor Adorno. Vous faites beaucoup référence, peut-être pour rendre les choses plus concrètes, plus palpables pour le lecteur, Laurence de Villers, dans votre livre « Être quelqu'un de bien », donc « Philosophie du bien et du mal » aux presses universitaires de France. Vous faites beaucoup appel à la fiction, et notamment à la fiction cinématographique. Il y a notamment un film, « Trois enterrements » de Tommy Lee Jones, qui vous sert de fil directeur. Mais il y a aussi toute une question, toute une réflexion sur la figure du mal absolu. C'est-à-dire qu'on est beaucoup focalisé aujourd'hui, selon vous, sur la figure du mal absolu et on laisse un petit peu de côté la figure du mal ordinaire, de la banalité du mal, aurait dit Hannah Arendt, pour citer notre philosophe qui vous occupe aussi dans cet ouvrage. Et parmi ces figures du mal absolu, il y a évidemment celle du serial killer.
John Doe a les cartes en main. Mills !
Voilà qui revient.
Quoi ?
J'aurais aimé vivre comme vous, David.
Ta gueule, toi. Mais de quoi est-ce que tu parles ?
Est-ce que vous m'écoutez, inspecteur ? Je suis en train de vous dire à quel point je vous admire, vous et votre charmante femme.
Quoi ?
Tracy.
Qu'est-ce que tu viens de dire ?
Je suis allé chez vous ce matin. Après votre départ, j'ai essayé de jouer au mari, de coûter la vie d'un homme ordinaire.
Jette ton arme !
Ça n'a pas marché. Alors, j'ai emporté un petit souvenir. Sa jolie petite tête.
L'atroce scène finale du film Seven, le film de David Fincher, qui met en scène justement le serial killer absolu, hein, l'incarnation du mal.
Ah oui, c'est un modèle du genre.
Un modèle du genre, et vous en parlez d'ailleurs dans ce livre.
Oui, Seven, c'est un modèle du genre, c'est l'apothéose du serial killer, donc du diable en réalité, hein, de Satan. Enfin, Seven joue beaucoup sur la métaphysique, enfin, et la théologie même, le péché. Donc oui, je regrette que l'image du serial killer existe d'une certaine façon. Je vais vous dire pourquoi. Même si moi-même, vous l'aurez compris, je regarde absolument toutes ces choses-là, ces séries et ces films. Parce que l'image du serial killer nous absout du mal. C'est-à-dire qu'il est tellement mauvais, il est tellement satanique. En ce sens-là, il est presque surnaturel, il est presque trop extraordinaire pour être vrai. Et d'une certaine façon, ça nous défausse du mal ordinaire. Or, ce qui m'intéresse, c'est ce mal ordinaire, cette lâcheté, ces petites lâchetés quotidiennes qui sont en réalité le vrai visage du mal. Le serial killer semble tellement impossible dans son caractère mauvais qu'on se dit, bah non, c'est pas humain, c'est un monstre. C'est justement, on a forgé la catégorie serial killer. C'est l'équivalent du Satan, du démon ou du monstre de nos jours. Alors que je pense que le mal et le bien sont des choses qui sont toujours à ma portée. Il est peut-être pas à ma portée d'être aussi monstrueux que l'archiméchant de Seven, mais n'empêche que à peu près une fois par semaine, voire plusieurs fois par semaine, je commets des petites lâchetés. Et le mal, c'est ça. Il est dans cet incognito, d'une certaine façon, ou dans cette presque banalité. Ça semble pas si grave que ça, de pas avoir, de s'être pas insurgé, ou de pas avoir parlé, etc. Ben si, c'est grave. Donc le serial killer, oui, c'est dommageable. Parce que ça cache, en fait, la réalité du mal.
Et ça vous amène à dire qu'il faut se méfier de ceux qui banalisent le bien. Qu'est-ce que vous entendez par cette expression, ceux qui banalisent le bien ?
Alors, il y a une forme de banalisation du bien qui consiste à dire que c'est presque un défaut. Vous savez, quand on dit de quelqu'un il est gentil, d'abord on peine à le dire parce qu'on n'a pas le sentiment que ce soit vraiment un compliment. Et je pense que là, il y a une forme d'identification de la gentillesse, donc de la bonté, hein, du bien, de la capacité à faire le bien, avec une faiblesse. Le gentil serait gentil parce qu'il n'aurait pas la force d'être autre chose. Donc il serait en réalité gentil par faiblesse ou gentil par peur, peut-être même par peur d'être méchant. Donc je pense que ça c'est une erreur et ça a conduit à faire de la bonté et je pense de la morale, avec la bonté, quelque chose qui est ou pas drôle, ou pas intéressant, ou terne et mièvre. Et je pense que la mièvrerie est bien l'inverse de la morale.
Vous avez laissé de côté un terme qui pourrait être aussi associé à la morale, qui serait celle de l'aliénation, ou en tout cas d'une forme de perte de liberté. Or, justement, selon vous, Laurence de Villers, c'est bien l'inverse qui se joue là. La morale est une forme de liberté. On connaît hein, cette idée selon laquelle, parfois, ce sont les contraintes qui libèrent et la liberté qui a servi.
Oui, alors au risque de choquer, mais je l'ai dit, hein, la philosophie pour moi a un pouvoir de turbulence, donc de créer le trouble et l'inquiétude. Je vais même plus loin que vous, je dirais que la morale est, par excellence, l'expérience de liberté. C'est très difficile d'avoir des exemples de liberté dans nos vies, quelles qu'elles soient. C'est très difficile de faire des vrais choix. Vous savez, ces vraies situations de ou bien, je vais à droite ou à gauche, c'est finalement assez rare. La plupart du temps, on continue à être celui qu'on était. Mais la morale ne peut pas se passer sans liberté. Donc c'est une expérience d'absolue liberté, et même la liberté contre soi, ce qui est très très rare. Il est très rare, je crois, de pouvoir être comme en surplomb par rapport à soi, et malgré son caractère, malgré son histoire, malgré ses goûts, malgré ses désirs, faire un choix ou une action morale qui peut-être ne me ressemble pas, qui était peut-être pas attendue, où je me dépasse moi-même d'une certaine façon. Et ça, c'est une expérience de liberté.
Mais alors, la morale, c'est une façon d'être ou une façon d'agir, Laurence de Villers?
Il n'y a pas d'être sans action. Être, c'est agir. Et la morale, c'est une intention qui nécessairement se transforme en action. Je crois pas aux bons sentiments qui seraient purs parce qu'ils n'agiraient pas. Les bons sentiments font pas la morale, d'abord, ça suffit pas. Et ensuite, il n'y a pas de morale sans épreuve de la morale, c'est-à-dire sans l'action. Ouais.
Mais alors, qu'est-ce qui résiste dans notre quotidien aujourd'hui à la possibilité d'être quelqu'un de bien? Vous avez l'air de dire dans cet ouvrage, hein, Être quelqu'un de bien, Laurence de Villers, que par exemple, il y a une façon aujourd'hui d'être assujetti à son propre désir qui nous empêche d'arriver à ce bien et à ce mal, à cette considération du bien et du mal, et donc finalement à cette morale que vous essayez de circonscrire, en tout cas de définir dans cet ouvrage. Cette question du désir, elle est évidemment très présente aussi dans la réflexion aujourd'hui, c'est central pour vous?
Oui, parce qu'effectivement, ça peut être un obstacle, c'est-à-dire que je peux finir par me réduire à la somme de mes désirs, c'est-à-dire je suis ce que je désire. Et ça, je pense que c'est réducteur d'une certaine façon, parce que non seulement, et Dieu merci, je dirais, je change de désir, et parce que un désir satisfait en fait naître 10 autres qui sont pas encore satisfaits, donc il y a une forme de d'agitation et de trouble autour du désir, et parce que je ne me résume pas, comment vous dire, à un catalogue où je dirais ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, ça je veux pas. Mais je pense qu'il y a plus dans ma vie. Mon existence est amenée à se confronter à elle-même dans des moments qui sont autre chose qu'aimer ça ou ne pas l'aimer.
Laurence de Villers, qui est philosophe, est notre invitée à la grande table aujourd'hui. C'est la nouvelle année, on prend des bonnes résolutions et donc on se demande ce que c'est qu'être quelqu'un de bien.
Il m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Je dis bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. L'heure où s'enfuit le bon Dieu qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand. Quelqu'un de bien, quelqu'un de bien.
Laurence de Villers est donc notre invitée. Laurence de Villers, on a dans la première partie de l'émission essayé de définir un petit peu ce que pouvait être une morale dans l'absolu, mais peut-être aussi une morale au XXIe siècle. On a tenté de circonscrire un petit peu un certain nombre de sujets, le rapport à la liberté, évidemment à l'émancipation. Je vais quand même vous interroger parce que il y a en filigrane dans ce livre une façon de porter la critique aussi contre un mouvement de la philosophie contemporaine, notamment hérité peut-être plus lointainement des Lumières et de la philosophie du XXe siècle et celle de la déconstruction dans le sillage de Claude Lévi-Strauss notamment, qui est la question du relativisme. Et évidemment aussi la question qui est associée à celle du relativisme, qui est celle de la raison, de la rationalité. Et est-ce que la morale est une façon aussi puisque vous le dites à plusieurs reprises, de dire que tout ne se vaut pas et que donc le relativisme ne peut pas être érigé en absolu, pour le coup, et de dire aussi que la raison est compatible avec la morale, ce qui pourrait être discutable.
Oui. Une des grandes difficultés à laquelle se trouve confrontée la morale, c'est évidemment le relativisme. C'est-à-dire, et même, je pense, dès qu'on parle de valeur, paradoxalement, c'est une forme de relativisme. Parce que l'emploi du terme de valeur à la place du bien absolu et du mal qui peut tout aussi être absolu, c'est l'idée que ces valeurs sont les miennes. Je pense qu'on utilise le terme de valeur de nos jours plus dans le sens de conviction, de principe, mes convictions à moi. Donc, paradoxalement, je crois que valeur témoigne d'une forme de relativisme. Ça serait la morale, oui, mais celle à laquelle je souscris moi. C'est-à-dire les valeurs auxquelles je souscris moi. Donc oui, c'est un obstacle auquel j'ai été confrontée et qui est à la fois un des plus difficiles et un des plus faciles à écarter. Alors j'espère que vous verrez pas là une pirouette, mais je me réfugie derrière Leibniz. Tout près des Lumières, hein, il les annonce. Hein. Et il dit, je suis étonnée de voir qu'on m'objecte à chaque fois le relativisme. C'est-à-dire que ce que la morale condamnerait serait condamné en Europe, dit-il. En fait, il parle plus ou moins de l'Allemagne. En Europe, mais pas ailleurs. Et il dit, je suis quand même contraint de constater qu'à peu près les mêmes choses se condamnent, qu'à peu près les mêmes choses sont louées. Et il ajoute, mais je le dis avec mes moins, qu'à peu près tout le monde est d'accord pour juger que cette personne est quelqu'un de bien ou n'est pas quelqu'un de bien. Donc, encore une fois, je n'essaie pas de vous répondre par une pirouette, mais je constate avec Leibniz qu'effectivement, il y a quand même un accord sur ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est bien de faire, ce qui est mal de faire. Et c'est cet accord qui est intéressant. Pourquoi on juge que celui qui se sera insurgé, qui aura relevé une injustice, c'est bien. Et on le pensera, et même on le dira, hein, on dira, ouais, chapeau, c'est bien. D'où vient cet accord ? Pour moi, le mystère, c'est plutôt le mystère de l'accord que le mystère du relativisme. C'est d'où vient que d'abord, on l'a peut-être pas fait, nous, mais qu'on reconnaît qu'il était de l'ordre du possible d'être ce héros singulier et à la fois complètement banal, qui a dit « non, ça se fait pas, il faut pas le faire ». Vous voyez, c'est l'accord que je trouve énigmatique.
Mais justement, le juste ou l'injuste, la justice n'a pas à voir avec la morale, Laurence de Villers.
La justice a à voir avec la morale. La justice, c'est une question de structure sociale et politique. Je pense qu'on le sait, le politique est de plus en plus rattrapé par la question du juste, donc par la question morale. La morale ne peut pas ne pas se poser la question de savoir comment instaurer un monde juste. La question du monde, de quel monde voulons-nous, quel monde faisons-nous, est une question morale.
Oui, mais le relativisme, justement, c'est aussi une façon de prendre en charge le réel, Laurence de Villers. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour être très très concret, hein, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une façon qui est stigmatisée par certains comme une forme de communautarisme, qui pour d'autres est une façon aussi de faire valoir une histoire, une réalité dans le monde, que ce soit des formes de discrimination ou des formes d'être au monde qui sont marquées par le fait qu'on est un homme ou une femme, qu'on est blanc ou noir, qu'on est issu de telle ou telle histoire. Et ça, ça a aussi à voir avec la morale.
Mais absolument, c'est-à-dire que la morale a en charge le réel. Je le disais, la question du monde, de quel monde voulons-nous, dans quel monde vivons-nous, la question de faire monde, si je dois le rendre peut-être plus concret, c'est-à-dire que vous et moi coexistions dans un même espace, cette question-là, c'est une question morale. Et ça implique, le monde, c'est son histoire, c'est le fait d'être un homme ou une femme, et même un animal. Donc oui, je plaide pour une morale à la fois qui joue avec des absolus, et vraiment des absolus dans nos vies, et qui prennent en charge le réel. Je pense à cet historien britannique de la gauche britannique, Thompson, qui a étudié les grèves, au hasard, citons cet exemple, les grèves, les manifestations en Angleterre, et qui montre qu'en fait, il y a une économie morale, c'est-à-dire qu'en fait, les revendications sont celles d'un monde plus juste. Elles sont pas seulement des revendications du ventre ou du portefeuille. Quand elles sont même des revendications du portefeuille, des revendications de l'avènement d'un monde plus juste. Eh bien, cette demande, un monde plus juste, quelque chose de plus juste, et j'irais même jusqu'à dire de plus beau, parce qu'il y a une forme de beauté dans la justice, c'est une question que la morale ne peut pas laisser de côté et qu'elle ne peut pas laisser au relativisme.
Alors, puisqu'on va du plus petit au plus grand, qu'on n'arrête pas depuis le début de cette émission, Laurence de Villers, d'aller du plus concret au plus théorique, remontons un petit peu en généralité, si vous le voulez bien, parce qu'on est quand même face aujourd'hui à une situation dont on ne peut pas s'extraire, qui est la situation du dérèglement climatique, et donc de la possibilité de la fin du monde. On est à ce moment-là de notre histoire. À nouveau, j'ai envie de dire, parce que c'est pas la première fois que l'humanité se pose la question de la fin prochaine, mais là, elle a l'air bien réelle et en tout cas bien crédible, en tout cas ancrée dans l'évolution de la planète. Et ça fait dire à un autre chercheur, qui est Pierre-Henri Castel, qui n'est pas philosophe, mais qui est sociologue, et qui a récemment analysé justement la possibilité du bien et du mal en situation de catastrophe, en tout cas face à la possibilité de la fin du monde.
S'il y a une hâte particulière, ce sera celle de savoir si on se retrouve du côté des victimes ou du côté des bourreaux. Et que les choix, vous voyez, ce sont ceux que raconte très bien la science-fiction post-apocalyptique. Hein, par exemple, La Route de Cormac McCarthy ou Silo, des choses comme ça. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des chefs-d'œuvre. Hein, quand il commence à y avoir des formes comme ça qui étaient mineures et qui sont des chefs-d'œuvre, ça veut dire que les sensibilités collectives changent et qu'on est en train de s'habituer à penser autrement. Eh ben, l'étape suivante, c'est de se dire que les derniers trouveront une jouissance particulière à la destruction, à la ruine, au massacre, etc.
Pierre-Henri Castel, c'était au micro des Matins de France Culture. Tiens, c'était le 31 décembre 2018. Vous voyez, on se pose toujours cette question vers la fin de l'année ou en début d'année. Laurence de Villers, Pierre-Henri Castel, qui est donc l'auteur d'un livre au cerf qui s'appelle Le Mal qui vient, dont je conseille vraiment et vivement la lecture, puisqu'il pose cette question fondamentale. Et on voit qu'il la recourt lui aussi à cette question de la fiction, comme McCarthy, La Route, qui est à la fois un livre et un film.
Ah oui, alors la fiction, absolument. Moi, je penserais plutôt à la série Tchernobyl, qui est à la fois insoutenable et qui montre, contrairement à ce qu'on imagine, je crois qu'on est entré dans les séries dans une période d'anti-cynisme. Et la série Tchernobyl que je citais le prouve. On a la mise en scène de héros du quotidien, absolument anonyme, absolument incognito, comme doivent l'être les héros. Et je pense qu'au contraire, on a maintenant dans les séries quelque chose de très intéressant, et à la lumière de la catastrophe, cette idée que c'est maintenant que ça se joue. Donc Tchernobyl, c'était avant-hier, hein, mais ça peut être demain. Je pense que nous sommes en train de philosopher d'une certaine façon à l'ombre ou sous le minutage de la catastrophe. Et ça rend les questions beaucoup plus urgentes et prégnantes. Effectivement, je pense qu'il y a ça, et je pense que de toute façon, d'une certaine façon, je dirais, on philosophe toujours à la lumière d'une catastrophe. Il y a toujours une urgence à dire ce qu'on doit dire. Et dans le bien et le mal, dans la morale, il y a toujours une urgence. Et pourquoi? Parce que le moindre mal, et c'est pas la peine d'attendre ou Tchernobyl ou 2050 ou 2024, ou la science-fiction, le mal est toujours une destruction. Toujours. Le mal, c'est la destruction de ma liberté, déjà. Parce qu'en fait, le personnage du mauvais n'est pas intéressant, c'est quelqu'un qui est pieds et poings liés, c'est pas quelqu'un de libre. Donc il y a la destruction de ma propre liberté, et il y a la destruction du monde, de ce monde dont nous parlions, où vous et moi pouvons vivre, où le mauvais et le gentil vivent en même temps. Donc il y a toujours une destruction dans le mal, même si on n'est pas à la veille d'une catastrophe. Et puis, je reviens sur les séries, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, parce que on est en train, dans les séries, de forger un héroïsme du bien. Et encore une fois, je pense que la série qui le montre le mieux, même si elle est... Je crois que j'ai à peu près tout vu en termes de série, mais là j'ai eu beaucoup de mal à la regarder. Elle est très dure à regarder. La série Tchernobyl, on voit...
Je n'ai pas dépassé le premier épisode, je dois vous l'avouer.
Vous en convenez, c'est presque insoutenable. Hein. Moi j'ai regardé jusqu'au quatrième, j'ai dû faire une pause, et puis j'ai regardé jusqu'à la fin. Mais je crois que je suis pas seule, je crois qu'il y a un triomphe autour de cette série. Je pense qu'il est en train de naître... Je l'espère, quelque chose comme une redéfinition des marqueurs entre bien et mal, et une redéfinition, oui, de la bonté, de l'héroïsme de la bonté.
Oui, mais cette bonté, cet héroïsme, dans une autre série comme celle qui est Westworld, que vous citez aussi, elle est plutôt du côté des humanoïdes, des robots, que de celui des humains qui sont asservis à leurs désirs, qui vont dans ce parc d'attractions pour pouvoir faire absolument ce qu'ils veulent, tuer, violer, piller, quand ce sont les robots qui sont présents, qui se posent les véritables questions de la conscience, évidemment, et probablement de la morale. Une question quand même pour terminer, c'est une question massive, donc il nous reste encore un petit peu de temps, Laurence de Villers. La politique est presque absente de votre ouvrage. l'entourage. En tout cas, elle n'est pas tout à fait présente. Or, on pourrait se demander, justement, à cette époque où tout s'effondre, à cette époque où la question, justement, du rapport à la politique, à la démocratie est aussi centrale dans nos réflexions, et où aussi une philosophe comme Judith Butler, lorsqu'elle reçoit le prix Adorno il y a quelque temps, se interroge sur ce qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne, et se dit qu'une vie bonne, justement, mener une vie bonne, c'est intégrer, c'est repenser la politique et la repenser à partir des corps vulnérables, des corps dépendants, des corps souffrants. Donc je voulais vous demander, est-ce que la politique est absente parce que vous estimez que la politique n'a pas à voir avec la morale? Récemment, on a vu que c'était pas forcément toujours le cas. Ou est-ce que c'est juste que voilà, c'est un autre champ pour un autre livre?
Alors la politique a à voir avec la morale et la morale a à voir avec la politique. On l'a dit pour le domaine du social, toute grève est en fait une grève morale qui en appelle à la morale. Et je pense que c'est le cas pour le politique, notamment avec un régime aussi particulier que la démocratie, qui a toujours été pensée, en tout cas, disons dès le XVIIIe siècle avec Montesquieu ou Rousseau, elle a été pensée en termes de vertu, c'est-à-dire pour vivre dans une morale, pour vivre en démocratie, il faut des hommes vertueux. Donc c'est l'un des seuls régimes politiques qui a fait de la morale une des modalités de son fonctionnement. À tel point que Rousseau dira, de fait, la démocratie, c'est fait pour les dieux, mais pour les hommes qui sont capables d'être mauvais. C'est un régime qui est pas adapté pour les hommes. Donc, la démocratie demande, pour se penser elle-même, de penser la morale. Je l'ai pas fait dans ce livre parce que j'ai voulu essayer de, pas suffisamment, comme vous le dites, parce que j'ai voulu essayer d'aller à la racine de l'acte moral. Qu'est-ce qui se passe quand on fait quelque chose de bien ou de moral, ou de mal, de fait? Et ça serait un autre champ, effectivement. Non pas que c'est secondaire, mais parce que je pense qu'il faut d'abord mettre la morale au clair, c'est-à-dire dire, d'un point de vue presque métaphysique, qu'est-ce qui se passe quand on entre en morale, quand on fait quelque chose de moral. Et puis je pense que quand on est au clair, on ne demande pas à la politique, on ne lui formule pas des demandes qui ne la concernent pas, par exemple. Je vous donne un exemple très concret et peut-être trop court, mais parce que ça nous amènerait plus loin. Je crois que par exemple la transparence ou la corruption, c'est une demande qu'on formule à la politique, mais peut-être qu'on la traite pas de la bonne manière. Peut-être qu'effectivement il faut aller jusqu'au bout de cette demande, qui est une demande morale. Et on la traite de façon un peu trop rapide en plongeant dans une forme de puritanisme. Donc on fait une chasse aux sorcières, on dit que c'est pas bien. Moi je dis pas que c'est bien, hein, la corruption, je suis pas en train de dire ça. Mais je pense qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout de notre logique et qu'on demande à la politique de prendre position moralement, dans le domaine moral.
Est-ce que justement vous n'avez pas l'impression qu'il y a une évolution à ce titre-là, avec des jeunes générations qui, pour reprendre aussi l'une de vos expressions, prend en compte l'autre, que ce soit un autre être vivant, un autre humain ou un autre animal? Les sociologues Anne Muxel et Monique Dagnon ont récemment publié sur la question, disant que la posture de la jeune génération est morale et va au-delà de la question de l'environnement.
Ah oui, absolument.
Un peu d'espoir quand même pour terminer.
Un peu d'espoir, enfin beaucoup d'espoir d'abord, parce qu'on parle de jeunesse, donc c'est forcément de l'espoir. Oui, je pense que la jeune génération pose à nouveau frais la question morale avec une virginité, une urgence et une exigence qu'on n'avait peut-être pas. Peut-être que, en fait, on est peut-être, vous et moi, les derniers représentants de génération cynique. Je pense qu'on l'a été, que c'était à la mode, que ça nous faisait rire. Et je trouve que les jeunes générations, effectivement, nous obligent à repenser la morale avec les cyniques, parce qu'il y en a, et on fait monde avec eux aussi, mais avec une exigence même élargie, parce que je pense qu'il est de notre devoir moral d'avoir une relation morale aux animaux, et ça me semble essentiel, et avoir une relation morale aux politiques et au monde dans lequel nous vivons.
Laurence de Villers, merci d'avoir participé à La Grande Table. Être quelqu'un de bien, philosophie du bien et du mal, c'est donc publié aux Presses universitaires de France. Il me reste à remercier également toute l'équipe de La Grande Table, Jean-Christophe Brianchon, Oriane Delacroix, Henri Leblanc et Laura Dutèche-Pérez, avec Sophie Marty et François Bréus qui nous ont aidés à préparer cette émission. Une émission réalisée par Éric Lancien. À la technique aujourd'hui, c'était Louis Bardinet et Marie-Claire Oumabadi.